Cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Patrick Bouchain. Ce soir, architecture foraine, provoquer l'inattendu.
Bonsoir Patrick Bouchain.
Bonsoir.
Nous nous sommes quittés hier sur l'évocation du projet de Pompidou Mobile en 2011. Pensez à un musée en mouvement, une structure qui pourrait emmener les œuvres au plus près des publics. C'est, on l'a vu, la synthèse de votre travail avec les artistes, avec les institutions culturelles. C'est aussi la concrétisation d'une idée que vous développez depuis longtemps et qu'on a déjà évoquée rapidement. J'aimerais ce soir que nous l'approfondissions. Il s'agit de l'architecture foraine. Revenons un petit peu en arrière, on a l'habitude maintenant au cours de ces entretiens, on est en 1984, et vous construisez pour Bartabas le théâtre Zingaro à Aubervilliers. C'est, on va dire, le point de départ, Patrick Bouchain, de cette architecture foraine.
Ah non, c'est une longue histoire, et c'est une longue histoire avec Bartabas, puisque moi j'ai connu quand il avait 18 ans, et qu'il était donc sans lieu. C'est-à-dire que c'est à l'époque où le théâtre de rue, ou tout au moins une partie des jeunes artistes théâtre ou cirque, faisaient la manche. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de subvention et ils jouaient dans la rue. Et je les ai connus à ce moment-là parce que ils avaient un petit cirque qui s'appelait le Cirque d'Aligre. Et donc, je les ai accompagnés dans leur tournée et ensuite, ils se sont, on pourrait dire, un peu plus installé, puisqu'on ne peut pas être mobile sans point fixe. Et donc, certains ont choisi des points fixes, soit dans des lieux existants, soit des terrains sur lesquels ils pouvaient monter leur chapiteau quand ils n'étaient pas en tournée. Et donc, c'était le cas de Bartabas et de Igor, parce qu'à l'époque, ils avaient donc tous les deux le théâtre équestre Zingaro. Et j'ai donc travaillé pour les implanter définitivement sur un terrain en région parisienne.
Un terrain bien particulier, qui n'était pas destiné, évidemment, à recevoir un théâtre qui devait être provisoire, qui deviendra presque permanent.
Alors ce qui est magnifique, si vous voulez, dans le cirque, c'est que le cirque n'a pas de territoire. C'est-à-dire que le cirque vient se mettre sur le territoire d'un autre, et donc c'est comme si vous étiez vous-même, à un moment donné, hospitalier pour qu'un lieu culturel vienne s'installer sur votre territoire. Et donc ça peut être sur un parking, et en même temps, le soir, vous allez au spectacle, alors que quelques jours avant, vous vous êtes garé sur ce parking pour aller dans un supermarché, et là, vous êtes dans un lieu magique qui s'est installé sur un parking. Donc l'idée, c'était de trouver un lieu identique, c'est-à-dire de ne pas trouver un lieu qui figerait l'image donc de ce théâtre. Et en même temps, on ne pouvait pas trouver non plus un lieu qui ait une valeur immobilière, que le propriétaire aurait considéré comme ayant une valeur. Et donc on a fait une sorte d'appel à des maires de la région parisienne, et celui qui a répondu assez rapidement présent, c'est Jacques Ralit, donc le maire d'Aubervilliers. Et le terrain sur lequel donc nous avons implanté le théâtre est un terrain dont on pourrait dire personne n'en revendique la propriété. C'est un travail que j'ai fait après avec Gilles Clément, on en a parlé, ce qu'on appelle les délaissés urbains. Ce sont des terrains qui ont une valeur soit nulle, donc si on les met sur le marché, ils ne rapportent pas aux propriétaires, soit négative, puisqu'il faut réparer le terrain, le dépolluer, on pourrait le viabiliser, enfin c'est le terme technique, pour pouvoir le mettre sur le marché. Et la valeur de dépollution et de viabilisation est supérieure à la valeur du marché. Donc on a comme ça des terrains qui n'ont plus de valeur, dont les propriétaires d'ailleurs veulent s'en débarrasser, puisqu'ils continuent à payer l'impôt foncier. Et donc la ville d'Aubervilliers avait des vues sur un terrain qui appartenait donc pour partie à l'État, via un établissement public, et sur ce terrain, il avait été programmé la construction d'un hôpital, mais entre-temps, la politique hospitalière avait changé, et donc, on pourrait dire que le terrain qui avait été classé pour quelque chose se trouvait donc sans affectation, ni ancienne, ni future. Jacques Ralit, qui avait été donc ministre de la Santé, on connaissait bien donc les dessous, et donc, il propose une implantation provisoire, puisque en effet, on ne pouvait pas retrouver un statut définitif à ce terrain. Et cette implantation provisoire est très drôle parce que si vous êtes au-delà de 3 mois, vous devez déposer un permis de construire. Parce qu'on considère qu'au-delà de 3 mois, c'est un bâtiment pérenne. En dessous de 3 mois, c'est un bâtiment forain. Et donc, pour déposer un permis de construire, il faut donc un classement du terrain. Et Jacques Ralit donc, en a parlé au préfet de l'Île-de-France, Jean-Pierre Duport, qui a accepté le principe qu'on dépose un permis de construire pour un bâtiment donc recevant du public, ce qu'on appelle un ERP, mais en même temps que ce bâtiment puisse justifier qu'il est démontable. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce théâtre en bois. C'est parce que on l'aurait fait en béton démontable ou en métal démontable, personne n'y aurait cru. En toile, nous, on ne pouvait pas le faire parce que sur un bâtiment, disons, qui fonctionne toute l'année, c'était risqué de faire un bâtiment en toile pour des raisons acoustiques, principalement. Et donc, on l'a fait en bois et c'est un peu la première fois où j'ai construit donc un équipement public en bois. Et donc, ce théâtre, maintenant plus de 25 ans d'existence, on peut dire qu'il fait partie de la ville d'Aubervilliers, au même titre que le marché, l'église et autres, et que peut-être même dans le cadre du Grand Paris, puisque j'ai appris ça récemment, et comme il va y avoir à cet endroit-là, puisqu'il y a un métro, le fort d'Aubervilliers, il va y avoir là un nœud intermodal avec le futur transport rapide, et donc c'est assez drôle. Maintenant, nous faisons partie de l'aménagement, c'est comme si c'est nous qui, en étant éphémère, ou par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques jours sur l'imprévu, sur l'inattendu, c'est peut-être cet imprévu qui a constitué un point dur dans l'aménagement urbain, petit mais quand même, du Grand Paris.
L'architecture foraine demande d'être inventif aussi avec les réglementations, Patrick Bouchard.
Alors, c'est pas tellement...
Règles et réglementations.
Disons qu'il suffit de nommer autrement les choses pour que peut-être une réglementation échappe. Hein. On l'a vu dans l'explication que je donnais sur le centre d'art de Grenoble. Si vous faites à l'intérieur d'un bâtiment en métal une rue, c'est plutôt classé comme une rue, donc une rue couverte, plutôt que comme un bâtiment en métal recevant un musée. On pourrait dire que un bâtiment provisoire peut-être reposer la question de sa finition ou tout au moins d'une implantation dont on ne se soucierait pas de se projeter trop loin dans l'avenir. On pourrait dire « occupons déjà et nous verrons après ». On a l'habitude de dire « voilà, le bâtiment devrait être aligné, le bâtiment devrait avoir telle hauteur, et le bâtiment devrait avoir tel matériau pour être convaincu ». Bon, puisque c'est provisoire, puisque c'est éphémère, on ne se pose pas ces questions. Et donc, il redonne de la liberté, et il redonne de la confiance, il redonne de l'indépendance, et il redonne de la responsabilisation, puisque c'est une façon pour les gens, d'un seul coup, de se sentir responsable, peut-être même de quelque chose qui est anormal. Vous voyez, c'est une façon de dire, eh ben, celui-là, il est à moi. Et puis, pour revenir à Aubervilliers, amener 40 chevaux dans une cité à côté de, quand même, du cimetière de Pantin, qui est un très grand cimetière, un des plus grands cimetières de la région parisienne, avec là un nœud entre trois communes, qui était un nœud très difficile sur le plan de la sécurité, de la délinquance et autres. Ramener un animal en ville, mais pas un animal de compagnie au sens où on l'entendrait, mais ramener un cheval qui lui-même est un acteur, voilà, qui joue tous les soirs dans un théâtre ou qui part en tournée. Il y a des gens qui ont considéré que l'animal en ville, c'est peut-être une chose qu'on devrait réintroduire.
Alors vous avez parlé, Patrick Bouchain, de l'intégration du théâtre Zingaro au plan d'urbanisme du Grand Paris. Dans quelle mesure, selon vous, cette architecture foraine, elle permet aussi, quand vous vous installez sur ces délaissés, parce qu'il n'y a pas que le théâtre Zingaro, vous l'avez fait à de nombreuses reprises par la suite, de créer une sorte de nœud autour duquel la ville se réinvente. Est-ce que ça essaime? Est-ce que ça diffuse?
Alors, il y a... Alors, moi, je pense que, la première chose, c'est que ça surprend. Ensuite, ça retourne une vision négative. C'est-à-dire qu'en général, le terrain délaissé, qu'on peut appeler le terrain vague, a une image négative. Il n'est apparemment pas beau sur le plan plastique. Il est en général entouré de barrières. Il sert d'ailleurs aux pratiques illicites très souvent. C'est un terrain d'ailleurs qui permet de compenser tout ce qui est ordonné à côté. Et donc, y rentrer et y faire rentrer le public, c'est comme si on s'appropriait une partie de la ville qui était interdite alors qu'elle est libre. Et on a fait quelquefois l'essai, justement, d'y rentrer et de ne pas y construire quelque chose. C'est-à-dire que ça n'est pas toujours un vide abandonné sur lequel on pourrait, comme on dit, la nature a horreur du vide, venir se mettre dedans et tout de suite l'exploiter, même autrement que de manière spéculative. Mais on pourrait dire peut-être qu'un vide, c'est ce qui manque dans la ville. Et j'ai travaillé pendant un certain temps sur cette idée que le vide est peut-être le premier des équipements collectifs et que le vide et peut-être l'espace public qui n'existe plus trop dans la ville, parce que le vide a été remplacé par la voiture. On pourrait dire que la rue, qui était soit elle est commerçante, elle est commerciale, soit elle est infrastructure de circulation, mais on n'a peut-être plus d'espace vide pour se rencontrer. Alors, ça devient en effet le lieu de la rencontre, le lieu de la vie, le lieu de l'imprévu, le lieu de la fête, et on peut dire qu'à ce moment-là, ça devient structurant. Ça retourne la vision négative du terrain vague.
Qu'est-ce que vous apprenez lors de cette construction du théâtre Zingaro, Patrick Bouchain, qui vous sert ensuite, on citera la volière Dromesco, c'était en 1991 à Lausanne, on peut citer aussi le théâtre du Centaure à Marseille, vous avez jusqu'à construire une université foraine en 1999. Qu'est-ce que vous apprenez à ce moment-là qui va vous servir par la suite, peut-être de théorie, on pourrait dire, Patrick Bouchain?
Alors, on a vu que donc pour le lieu unique à Nantes, on considérait qu'un chantier est un acte culturel, c'est-à-dire que construire relève d'un acte culturel, c'est-à-dire que les gens qui construisent contiennent en eux-mêmes et avec leurs mains et ou leur tête une idée d'un objet produit par les hommes, donc est un objet de culture. Et donc on pourrait se dire que c'est en faisant peut-être ces bâtiments que j'ai découvert que construire est un acte positif, ou que construire est un acte éducatif, et que construire peut-être est un acte qui permet de réunir. On ne peut pas construire seul, on est obligé de construire en groupe. Et donc du coup, je me suis rendu compte assez tôt que on pouvait faire un chantier qui était comme une sorte de cours, c'est comme une grande leçon de choses. C'est-à-dire, peut-on parler d'écologie pendant que l'on construit et non pas pour établir une réglementation? Peut-on parler, de techniques contemporaines se complétant par une technique ancienne au vu des gens? Et peut-on faire de ce moment un lieu de transmission à une population, mais peut-être à des étudiants, à des enfants qui sont dans un collège ou dans un lycée technique?
Patrick Bouchain, réintégrer les animaux dans la ville, vous en parliez tout à l'heure, vous avez une relation particulière avec les chevaux, parce qu'après tout, vous rencontrez Bartabas, vous faites Zingaro, plus tard vous ferez le théâtre du Centaure, donc à Marseille, je crois qu'on est au début des années 2000, de 2001. Est-ce que c'est particulier de construire aussi avec cet animal en tête?
Non, mais c'était une remarque, parce que Igor, de la volière Dromesco, avait des oiseaux, et il a toujours donc un marabout qui s'appelle Charles. Et quelquefois, quand on fait des réunions qui tournent en rond ou on perd son temps, il dit « on va demander l'avis à Charles ». Et c'est un peu de se dire, est-ce qu'un animal, en l'observant, peut-être qu'on peut comprendre comment il habite ou comment il pourrait cohabiter avec nous. Et ça on retirerait peut-être ce langage abscon ou ce langage verbeux, où on ne sait plus ce qu'on dit. Et Bartabas disait toujours, faire une écurie, il y a une histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut peut-être faire évoluer, mais il faut regarder le cheval pour faire une écurie, et il faut peut-être pas faire une réunion et lui demander son avis et appliquer un règlement. Et donc je crois que c'est un virage là aujourd'hui. On a trop séparé les choses. La nature d'un côté, on en a fait une nature trop artificielle. De l'autre côté, les animaux, on les a cantonnés dans le monde sauvage ou dans les animaux de compagnie. Et peut-être que réunir les trois, ce que j'ai fait avec Gilles Clément, les animaux, ce que j'ai fait avec Bartabas, Igor, je pense que c'est peut-être une façon de faire la ville.
Vous avez construit, Patrick Bouchain, directement pour les chevaux, puisque vous avez réhabilité les grandes écuries de Versailles, celles construites par Jules Hardouin Mansart, dont vous avez parlé dans la toute première émission, donc cet architecte de Louis XIV. Construire à Versailles, d'abord, ça doit être quand même quelque chose pour un architecte. Le faire dans ces grandes écuries, c'est encore autre chose. Et puis surtout, Versailles, c'est le lieu de la construction et de la reconstruction par excellence.
Oui, sauf que on a souvent dit que je faisais de la réhabilitation. J'ai souvent, au contraire, plutôt fait de la transformation, puisque j'ai pris des bâtiments industriels pour en faire des lieux de culture ou d'habitation. Et là, c'est peut-être la première fois où j'ai fait une réhabilitation, puisque ce bâtiment a été construit pour des chevaux. Et entre-temps, l'armée en avait fait un lieu de stockage des cercueils et des archives départementales. Et donc, c'était une forme de réhabilitation. Peut-on reprendre les écuries qui ont été construites par Jules Hardouin Mansart très rapidement, parce que Louis XIV voulait très vite avoir les chevaux à la cour? Les chevaux étaient en dehors du château, parce qu'il y avait des problèmes d'odeur et de bruit. Et donc, ces écuries qui sont devant le château ce sont des écuries très importantes parce qu'elles calent les trois avenues qui arrivent sur le château. C'est une sorte de fer à cheval retourné, une sorte de perspective raccourcie. C'est une œuvre magnifique de Jules Arnaud-Mansart qu'il a construite donc très jeune et très rapidement. Donc j'étais très content de revenir dans des communs, puisque ce sont justement des bâtiments qui sont en général délaissés. Ils sont classés surtout sur l'extérieur et pas à l'intérieur. Moi, j'avais la charge de les réhabiliter à l'intérieur. Et donc je me suis posé la question, comment étaient les chevaux de Louis XIV ? Et comme à l'époque, les chevaux de Louis XIV, on pourrait dire, c'était ses chevaux, hein, c'était les chevaux de monte et non pas les chevaux de trait, ces chevaux étaient en général presque tenus par un palefrenier, c'est-à-dire que chaque cheval avait son gardien. Et comme là, donc, ça n'était pas le cas, et que Barthavas ne voulait pas faire des boxes qui donnent l'impression que les chevaux étaient contraints, il voulait que ce soit un salon pour le cheval. Donc on a fait un entre-deux, entre tel que c'était au XVIIe et tel que ça peut être aujourd'hui. Et on a quand même inventé un box, parce que Barthavas disait les chevaux s'ennuient et ils ont besoin de se voir, ou tout au moins ils ont besoin de voir les gens qui rentrent dans l'écurie. Et donc on a fait comme une sorte de fenêtre oblique, qui est en même temps l'endroit où le cavalier peut s'asseoir pour mettre ses bottes ou préparer la sellerie. Et donc on a juste fait évoluer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'avais jamais fait de boxe, on pourrait dire. J'ai trouvé un charron, un vieux charron qui les a fait. J'ai trouvé des restes de bois, voilà, chez un marchand de bois. Et l'architecte en chef de Versailles, qui est venu le jour de l'inauguration, a considéré que c'est comme si ces boxes étaient les boxes de la reconstitution et en même temps les boxes de la projection de cette écurie dans l'époque dans laquelle on est. Et ça, c'est marrant parce qu'il m'a félicité, considérant que c'était forain, puisque j'avais le droit de ne pas m'accrocher au mur, il fallait que je me pose au sol. Pour les câbles électriques, je les ai pendus, mais comme avant dans les écuries, d'ailleurs, où les hirondelles se posaient dessus. Et donc j'ai alimenté comme ça des lanternes en câbles forains, comme on le ferait pour un cirque. Et c'est ça qui donne aux écuries un caractère occupé ou très vivant. Et donc, comme quoi, on peut aborder le patrimoine en ayant non pas une vision de reconstitution ou de revenir dans un état d'origine, mais occuper un patrimoine pour le réparer, voire l'aménager, voyez, être très léger. Et le plus beau compliment peut-être que l'architecte en chef m'a fait, c'est qu'il m'a dit, tu as fait ça à peu près pour le, on pourrait dire, je sais pas, le dixième du prix que moi j'aurais fait avec les règles patrimonial. Donc peut-être qu'on pourrait y compris retourner les règles, parce qu'on va avoir de plus en plus de bâtiments à conserver, ça va coûter de plus en plus cher aux collectivités locales. Les collectivités locales ont des lieux de culte, peut-être pour un culte qui est moins pratiqué qu'avant, il y en a un autre qui est pratiqué, pourquoi on ne partagerait pas les lieux de culte, et pourquoi on ne les réparerait pas plutôt que de se lancer dans des campagnes de restauration, c'est ou de ruines ou de restauration, il n'y a pas cet entre-deux qui est réparé pour occuper.
Patrick Bouchain, vous avez un rapport, on l'entend, particulier à la notion de monument, qui est évidemment une notion qui occupe les architectes. Évidemment, vous avez cette idée qu'il faut que l'architecte se retire derrière le bâtiment, qu'il soit presque invisible, une architecture impersonnelle, je crois que c'est le terme que vous utilisez. C'est ça aussi que vous cherchez, ne pas faire monument, Patrick Bouchain ?
Alors, je pense qu'il faut apporter sa pierre. Voilà, c'est une expression populaire, apporter sa pierre. Et il faut qu'elle soit visible, mais il ne faut pas qu'elle soit totalitaire, c'est tout. Il ne faut pas que votre pierre annule toutes les autres pierres. Donc dans une ville, la ville elle est faite de bâtiments modestes et de monuments, mais la ville en elle-même n'est pas un monument, elle est la traduction d'un mode de vie. Et on pourrait faire pareil sur un bâtiment. On pourrait faire que le bâtiment n'est pas totalement homogène. Il comporte des éléments qui ont été faits par quelqu'un et un autre est venu dessus pour y apporter, à un moment donné, sa pierre. Donc c'est pas impersonnel au sens où il n'y aurait personne, où il n'y aurait pas d'auteur, mais c'est impersonnel au sens où il y aurait plusieurs personnes, voilà, où il y aurait plusieurs auteurs, et où on pourrait accepter d'ailleurs que soi-même, on soit transformé et en étant de son vivant. Vous voyez, je suis un peu contre le droit de suite des architectes. Si un occupant sent un nouveau besoin pour un bâtiment qui a été conçu par un architecte, l'occupant doit pouvoir le changer,
Le droit de suite, c'est ce qui permet à l'architecte de venir réintervenir sur un bâtiment pour en conserver l'esprit, l'esprit initial. Voilà.
Et donc, j'aime pas trop ce droit de suite. Et on pourrait dire que peut-être ce droit de suite, c'est de donner la suite à quelqu'un d'autre.
C'est la conséquence aussi, Patrick Bouchain, de cette autre idée que vous développez, sur laquelle l'homme est un nomade et non un sédentaire. Et c'est pour ça qu'il est malheureux en ville, vous dites. Et en même temps, la ville bouge tellement qu'il devient un nomade dans son propre espace. Qu'est-ce que peut l'architecte? C'est quoi à ce moment-là? C'est un facilitateur de vie dans la ville?
Ouais, c'est quelqu'un qui accompagne. D'abord, l'architecture est l'art le plus usité, puisque tout le monde habite. C'est incroyable, on nous fait croire que c'est un art de technicien, c'est vraiment un art populaire. Et donc, pour revenir sur cette question de l'impersonnel, du monument et autres, justement, il faut qu'une architecture soit personnelle de la culture de la société dans laquelle vous vivez. Quand vous voyagez, vous allez bien voir dans un pays une architecture contextuelle qui est l'expression du contexte géographique, mais en même temps du contexte économique, du contexte culturel. Et donc, vous vous enrichissez en voyageant, parce que vous voyez une chose, vous ne connaissez pas les auteurs. Vous savez qu'il y a des auteurs, mais vous ne les connaissez pas. C'est très récent, cette idée de nommer l'architecte comme seul auteur de la construction.
Patrick Bouchain, pour développer ces idées, vous avez participé à la fin des années 90 à la création de l'université foraine. C'est une université qui est portée par notre atelier commun qui défend des projets liés, donc on l'entend, au paysage, à l'architecture et à la ville. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots l'idée finalement de cette université foraine?
Alors, comme je pense qu'on l'a compris, j'aime bien que les choses soient reliées. J'aime bien que les choses soient dans un même récit. Je m'étais posé la question tout au début en créant cette école, les ateliers de création industrielle. Est-ce qu'il peut y avoir une école sans professeur, sans sujet, mais où, en fin de compte, un étudiant qui se réunirait, enfin, qui rentrerait dans une école, parce que c'est très important que les étudiants se trouvent à un moment donné de leur vie sur un même territoire, pour recevoir un enseignement ou échanger. Et donc, seul le savoir doit arriver quand il y a un objet. Il ne doit pas arriver pour arriver. Et donc, après avoir fait comme ça pas mal d'expériences sur les routes, comme vous l'avez vu, les chapiteaux, après des constructions de réhabilitation, dans des monuments historiques, soit dans des usines, hein, c'est toujours pour ne pas avoir de spécialisation. On peut aussi bien le faire dans une piscine que dans un cure center qu'à Versailles. Hein. Je ne suis pas un défenseur unique de l'architecture, d'une architecture unique. Et du coup, je me suis dit, mais si on crée un atelier commun, notre atelier commun, et est-ce que cet atelier commun pourrait répondre à des objets? Et pendant qu'il répond à des objets, est-ce qu'il pourrait être une université? C'est-à-dire qu'est-ce que le terme université, d'ailleurs, ça veut dire ça, c'est réunir. C'est une sorte de, comme une agora, c'est réunir. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se réunir de manière momentanée, et non pas définitive, sans structure institutionnelle, pour ne pas avoir toujours les difficultés de gestion, parce qu'après, c'est la gestion qui domine sur le fond des choses. Et donc, est-ce qu'on pourrait, comme ça, prendre un sujet que personne ne veut traiter, et dont il y aurait un objet à réaliser? Et cet objet serait l'objet de la satisfaction d'un besoin, parce qu'en même temps, il faut que ça serve, c'est pas un objet dans le vide, et il pourrait être l'objet de la compréhension de la chose construite, mais que ce soit pour un élu, comme pour un habitant, comme pour un architecte, comme pour un étudiant. C'est-à-dire que ça en va de compte. C'est pour ça que je disais, c'est une université sans lieu, c'est une université sans prof, mais c'est pas un mépris pour le savoir, c'est une université sans diplôme, mais c'est une université qui, pendant un moment donné, transmet quelque chose, et des fois, la chose transmise peut être faite par la personne qui se pose la question.
J'aimerais qu'on termine cette émission, Patrick Bouchain, sur l'époque. Vous parlez beaucoup d'habiter l'éphémère. Évidemment, ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, ce sont les réfugiés qui arrivent en France. La jungle a été démontée, mais c'était un lieu d'habitation où une sociabilité s'est créée aussi. Et il y a donc toute une discussion pour savoir si cette éphémère doit être détruit systématiquement ou si on peut en apprendre quelque chose ou peut-être pas le pérenniser, mais voilà, en tout cas, en faire quelque chose. Vous travaillez notamment avec un collectif qui s'appelle le Pérou sur ces questions-là. Quel est votre regard aujourd'hui sur ces questions du bidonville? On pourrait même aller jusque parler des ZAD, évidemment, à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs.
Alors, la première chose, mais bon, premier degré, hein, on pourrait dire que c'est un habitat de développement durable, puisque c'est essentiellement un habitat qui fait de réemploi. Donc on pourrait déjà regarder comment tout ce qu'on jette pourrait servir à construire. et on pourrait justement aider que les constructions soient de meilleure qualité qu'elles ne le sont. Ensuite, c'est une situation qui existe et qui ne va que s'accentuer. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des grandes périodes comme ça de déplacement de population, mais là, on est un peu plus sur Terre et une vision un peu plus globale. Donc, il va falloir vivre avec, comme on dit. Et le vivre avec, c'est pas d'en faire des ghettos, justement, parce que peut-être que le bidonville ou le camp tel qu'il est fait, c'est un ghetto qu'il ne faut pas renforcer. Il faut le regarder comment ce collectif, qui avant n'est pas un ghetto, il est une communauté qui se réunit parce qu'elle peut parler entre elles, cette communauté, parce qu'elle parle la même langue, par exemple, ou qu'elle est dans les mêmes conditions sociales. Mais il faut regarder comment on peut, non pas l'intégrer au sens de la perdre, mais disons la prendre comme une nécessité. Si on prend le cas de Calais, c'est une ville en déprise. Parce qu'on parle toujours de la progression, c'est une ville en déprise. C'est une ville qui perd son industrie, c'est une ville qui perd une partie de son habitat populaire et social, parce qu'elle est en déprise. Et donc, comment se fait-il qu'on n'ait pas eu envie de réhabiliter des logements murés ou des usines fermées pour en faire, avec cet argent qu'on avait pour le faire, parce qu'on a bien eu de l'argent pour mettre des containers qu'on a détruits après, on aurait pu réparer des logements dans lesquels on aurait mis des gens. Ils seraient restés ou non, mais on les aurait, pas diffusés, mais on les aurait, disons, uniformément répartis ou harmonieusement répartis sur le territoire, et ils seraient devenus de nouveaux habitants de maisons qui ont été, ou d'usines qui ont été abandonnées. Moi, j'ai été donc à Calais, au début où c'était très difficile, puisqu'il y avait des gens donc très pauvres, les conditions d'habitation étaient très dures, et puis petit à petit, comme le phénomène a grandi, on a eu des familles avec enfants qui sont arrivées, et on a eu même ce qu'on pourrait dire des classes moyennes qui ne pouvaient plus passer par les réseaux disons de la diaspora qui permettait d'y aller. Donc on a eu déjà des professions identiques à la mienne, des architectes, des médecins qui sont arrivés à Calais et qui avaient eux-mêmes fait l'expérience de camp à Beyrouth. Moi j'ai rencontré même un professeur qui avait pendant 5 ans fait école dans des camps à Beyrouth. Vous pensez que cette personne, elle n'était pas capable de faire une vraie école à Calais? Peut-être pas dans le camp, mais à Calais. Peut-être que ça aurait été formidable qu'un professeur syrien, 5 ans professeur dans un camp à Beyrouth, parti de Beyrouth pour aller à Calais, aurait pu prendre une école à Calais, l'éducation nationale aurait dû, c'est pas un truc que technique, l'éducation nationale aurait pu mettre à disposition à un vrai professeur l'enseignement, donc peut-être de ce phénomène, voilà. Et il y avait des architectes qui avaient une idée, il y a même eu des élus, il y a même eu un conseil élu. Pourquoi la ville de Calais n'a-t-elle pas convoqué ou de demander à cet élu de venir assister au conseil municipal? Quel est ce mépris? C'est une expression démocratique, il y a eu des élus. Ça aurait pu être un nouveau quartier de Calais. On aurait pu trouver un lieu intermédiaire entre le Chanel, scène nationale que j'ai faite, et le camp, et construire peut-être là un chapiteau qui aurait été un lieu de vie, par exemple. Parce qu'on a dit qu'ils avaient construit des lieux de vie. Il y a un théâtre qui a été construit dans la jungle. Il y a 14 restaurants qui ont été construits. Il y a des petits commerces. Donc tout ce qu'on n'arrive pas à faire dans les cités, réintroduire le petit commerce, réintroduire la vie, on aurait pu dire, tiens, et si on se mettait au pied des immeubles où les commerces de rez-de-chaussée ne marchent pas, et ainsi de suite. Donc c'est un aveuglement qui est insupportable, et nous le paierons très cher. Alors que c'est une chose qui est difficile à faire, mais qui est tellement agréable à faire, que d'expérimenter justement l'accueil de l'étranger. Et puis de toute façon, c'est une survie nécessaire pour nous. Si nous n'abordons pas ce sujet, nous en mourrons.
Merci Patrick Bouchain. Demain, nous nous retrouverons pour notre dernière émission. Nous la consacrerons à l'habitat social et à cette idée sur laquelle peut-être construire ensemble, ça permettrait de construire autrement.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Patrick Bouchain. À voix nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marc Garvenès, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.